Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle foire aux questions Guitare and News. Ça fait quand même quoi, 2-3 semaines, puisqu'il y a eu la pause entre gros guillemets californienne, puisque j'étais au NAMM Show. Donc hyper content de vous retrouver en ce mercredi 7 février 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai sorti ma California Giro, voilà, tout en Corina, regardez comme c'est beau. Je vous la montre aussi par cette caméra. Regardez comme elle est belle. Elle est toujours aussi sexy. Voilà, elle est sexy de devant, de derrière. Regardez-moi ce beau Corina, comme il est joli. Et comme le veut la tradition, eh bien, je vais essayer de faire que 2-3 notes de musique un peu correcte. Voilà, et même, je vais être un peu fou parce que je vais me faire du bottleneck. Et puis ensuite, on se cause chiffon. Hein, ça vous va, ça? Allez, c'est parti, mon kiki. Ça suffira pour ce soir, pour une petite introduction comme ça, un peu musclée, un petit peu n'importe quoi, comme d'habitude. C'est toujours un peu rock'n'roll. Je poursuis mon apprentissage pour ceux qui ont suivi mon apprentissage au bottleneck, et il y a encore bien du boulot. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de vous revoir. J'ai évidemment plein de choses à vous raconter, puisque je suis revenu presque 10 jours en Californie. Il y a eu le NAMM, et puis ensuite après il y a eu le post-NAMM, et puis maintenant le post-post-NAMM, c'est-à-dire que je suis en train d'essayer de me remettre tranquillement mais sûrement de ce décalage horaire. La sagesse populaire nous dit qu'il faut à peu près une journée par heure de décalage, donc d'ici 2-3 jours je devrais être à peu près correct, un peu plus en fait. Bon, je vais quand même pas me plaindre parce que c'était une très très belle édition, je vais vous raconter tout ça en détail. En attendant, je dis bonsoir, tiens je vais vous mettre cette image, tiens voilà, comme ça vous voyez un peu la chatroom. J'ai dit bonsoir à Olivier, salut Mathieu, salut Arnaud, bonsoir Vincent, salut Sandra, salut Tanguy, l'excellent Tanguy Kerleroux, bonsoir Chuck. Alors joue du Frank Zappa, non je crois pas, parce que j'ai pas du tout le niveau de jouer du Frank Zappa, et en plus je serais bien incapable de vous sortir un riff de Frank Zappa comme ça. Voilà, et les autres je vous ai déjà dit bonsoir. Donc, alors j'ai pas mal de petites questions qui sont arrivées, mais on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais d'abord un peu dérouler les dernières nouvelles du front, et ensuite on ira sur la partie foire aux questions, hein, ça vous va? J'en profite pour faire évidemment un petit rappel pour ceux qui connaissent pas encore complètement la chaîne Guitare. La chaîne Guitare, c'est un média indépendant qui est 100% financé par vous, enfin en tout cas ceux d'entre vous qui payez votre abonnement à la chaîne Guitare. Il y a plusieurs formules. Il y a eu la formule que j'appellerais de découverte, qui est l'accès 24 heures à 2,99€, qui permet d'accéder à tout l'immense contenu contenu qui est disponible. Et si vous en voulez un petit peu plus, parce qu'après 24 heures, vous dites « Ah, mais c'est drôlement bien, j'aimerais bien regarder tout ce qu'il y a d'autre », eh bien, vous cliquez sur « S'abonner » et là, vous avez donc à nouveau la formule 24 heures qui est indiquée ici, et vous avez la formule à 19 euros par mois, ou la formule à 199 euros pour un nom, là, qui est derrière ma tête, ici, qui vous permet d'avoir 2 mois offerts. Et avec la formule 19 euros ou 199 euros, à ce moment-là, vous avez la totalité, c'est-à-dire les 4 composantes de l'abonnement. Un, l'accès à tout le contenu, l'immense bibliothèque, voilà, les reportages, les interviews, les tests de matos, les chroniques, tout ça, tout ça. La possibilité de discuter sur le forum privé. J'ai vu dans la chatroom qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont backstage, donc n'hésitez pas à dire à ceux qui sont pas encore backstage qu'il faut venir, que c'est vachement bien. Ça, c'est la deuxième composante, donc la discussion sur le forum privé. La troisième composante, c'est les tournées matos, je vais y revenir dans un instant. Et enfin, la dernière composante, c'est la possibilité de venir ici au showroom, sur rendez-vous à Paris. Pour des fois c'est pour avoir le simple plaisir de ce qui se passe un peu côté coulisses, et puis des fois c'est pour essayer du matos particulier ou qui est de passage. En tout cas, c'est tout le principe. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne tout de suite avec le NAM. Hein. On va commencer par ça. Je cherche mon article où j'ai le truc complet. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous mettre celui-là en premier. Voilà. Donc le NAM Show, c'était moi mon 9e NAM Show. Ça, c'est le gigantesque hashtag là, qui est à côté du Convention Center qu'on aperçoit ici derrière. En fait, plus précisément, c'est le ACC North là, qui est derrière, qui est un des bâtiments, et le Convention Center, il est plutôt par ici, là c'est le bout du Convention Center. Donc, il y a eu beaucoup de contenus qui ont été postés, notamment un reportage par jour, et même plus un, puisque j'ai fait un reportage avant l'ouverture, on va y revenir. Et après, il y a eu une moisson d'interviews, voilà, que vous voyez défiler sous vos yeux ébahis, franchement phénoménal, puisqu'au total, j'ai ramené 35 interviews, dont 4 débriefs, des centaines de photos, voilà, plein de choses. Donc, si je vous fais un débrief à froid maintenant, puisque je suis rentré vendredi dernier, pour moi, ça a été une très très bonne édition, avec beaucoup de rencontres, plein d'échanges. Par rapport aux deux éditions post-Covid précédentes, donc à savoir en 2022 et 2023, on n'est pas revenu au niveau pré-Covid en termes de volume d'exposants. Alors, ils annonçaient quand même 1600 exposants, 3500 marques, donc ça reste quand même gigantesque. Mais on a quand même moins d'exposants. Il y avait notamment toujours les deux gros qui sont pas là, donc à savoir Fender et Gibson, et dans les un peu moins gros, mais pas beaucoup moins gros, PRS qui n'était pas là cette année, bien que Paul Reed Smith et quelques-uns de ses lieutenants étaient quand même dans les couloirs. On est plusieurs à être nombreux à les avoir croisés. Mais donc voilà, les deux gros, Fender et Gibson, n'étaient pas là. Alors oui, ça a un impact, mais pas aussi grand qu'on penserait, puisqu'en fait Fender et Gibson, traditionnellement, ils ont des stands dans les étages du NAM. Donc là, bon, bah les étages du NAM étaient remplis par d'autres choses, parfois un peu moins intéressantes, mais le ça n'a pas d'impact sur le rez-de-chaussée, où eux, ils ne sont pas du tout de toute façon. Et le rez-de-chaussée côté guitare, lui par contre, je l'ai pas trouvé sinistré. Au contraire, il y avait beaucoup de choses. Encore une fois, vous avez pu voir un peu les interviews que j'ai pu y faire, et l'impact que l'absence a de Fender et Gibson, c'est que les gros artistes de ces deux marques, eh ben, ils sont pas présents ou moins présents, ou alors s'ils viennent, c'est pour d'autres marques ou alors pour leur simple plaisir personnel. Néanmoins, ils étaient pas là déjà, les deux NAM précédents. Moi, ils m'ont pas manqué. Bien sûr, j'aurais été ravi d'aller à la soirée Custom Shop Fender traditionnelle, de regarder les master builds, peut-être de coincer un ou deux artistes, etc. Mais j'ai eu largement de quoi faire sur cette édition. Et tout ce qui était au rez-de-chaussée, honnêtement, il y avait un dynamisme là qui faisait plaisir à voir. Et cette impression que moi j'ai eue, que je vous partage générale, Elle était assez partagée par tous les gens, les professionnels à qui j'ai pu discuter, qui étaient agréablement surpris pour ceux qui n'étaient pas revenus depuis le Covid. Et même ceux qui étaient venus les 2 années précédentes ont trouvé que là, on est revenu à un niveau d'activité, d'échange qui est très intéressant. Alors, il reste que l'année prochaine, le NAM repasse non pas à 4 jours, mais à 3 jours. Donc, c'est probablement peut-être, c'est toujours de toute façon question d'argent, donc c'est probablement parce que les exposants l'ont demandé. Moi je trouve ça un peu dommage, mais enfin bon, c'est pas moi qui décide. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai bossé pendant les 4 jours et j'ai fait plein de choses. Alors je vous propose peut-être de faire un survol des journées une par une. Il y avait notamment donc la journée de pré-ouverture là qui était très intéressante, puisque moi je suis arrivé dans début d'après-midi en fait à Los Angeles, le temps d'arriver et de récupérer mon badge, comme vous voyez ici. Là, j'ai pu faire une petite visite, une pré-visite avant que le salon soit ouvert. Donc, je vous propose de regarder un petit coup à quoi ça ressemble. Si j'ouvre les bons faders, normalement, ça doit rouler. Allez, c'est parti.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare.
On n'a pas beaucoup de volume.
Je me trouve à Charles de Gaulle, terminal 2E. C'est là que je vais prendre le vol de 11h45 pour rejoindre Los Angeles pour aller couvrir ce qui va être donc mon 9e NAM. Et oui, le premier, c'était en 2015. Je les ai tous faits depuis. Enfin, tous ceux qui ont
là, je vous raconte un peu ma vie.
C'était une édition en 2021.
Je vais avancer et on va aller directement... On va aller directement au moment où je suis en train de rentrer dans le NAM. Voilà, tiens, pour la peine. Hop là.
Voir faire une petite sneak preview de ce qui se passe ici.
Donc là, c'est très très calme parce que le NAM n'est pas ouvert. Là, on est mercredi soir. Hein. Voilà, on va bientôt rentrer dans le NAM. Et en fait, non, vous n'allez pas rentrer dans le NAM, parce que là, c'est le teaser. Mais en fait, c'est là où les stands sont en train d'être installés. Voilà. Donc, c'est toujours...
Rouge, exhibiteur, on devrait être tout le monde.
Si je coupe la mauvaise vidéo, ça ne va pas marcher très bien. Ah si, là où vous avez un petit peu aperçu à quoi ça ressemble derrière moi, voilà. Donc, c'est évidemment hyper intéressant de se promener comme ça, puisque l'essentiel des stands sont installés, sont en place. Il y a encore des gens qui sont pas complètement prêts, mais ça permet de se promener, puis de regarder un petit peu ce qui se passe, et d'avoir ainsi la possibilité de se promener dans le NAM sans avoir d'exposants ni de visiteurs. Là, on est carrément tout seul. J'essaie de vous montrer, voir si je peux vous montrer quelques images, ça sera encore plus parlant. Voilà. Alors, donc ça, c'est mon avion, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, par exemple, à quoi ça ressemble le NAM en cours d'installation. Donc là, c'est le stand de Victory. Donc, les tapis sont pas encore installés. Là, c'est le coin des pédales qui est ici. Là, il y avait le grand espace normalement occupé par Neural DSP, où il y avait un gros Soon qui était ici. En fait, il n'y a rien eu pendant les 4 jours. Donc ça, c'est un peu le stand what the fuck du NAM. Voilà, donc c'est très plaisant parce qu'on peut se promener et c'est là le stand de Quentin Deleuve, de Deleuve Guitars, qui était le seul luthier français avec Paul Lera au niveau basse. Voilà, donc hyper plaisant. Moi, j'adore cette possibilité-là. Et je remercie d'ailleurs au passage Guillaume de Blue Cat Audio, puisque c'est parce que je disposais d'un badge d'exposant que je pouvais comme ça accéder justement avant que le NAM n'ouvre. Ensuite, la première journée du NAM, voilà, j'ai mis une belle guitare d'un luthier espagnol qui décorait le boutique Guitar Showcase. Ça a commencé très fort avec une grosse... avalanche d'interviews, notamment Pete Honoré alias Dan Ashpit, donc de Anderton, Henning Poli, Thomas Nordeg, le guitar tech de Steve Vai, voilà, c'est quand même incroyable. Quentin Deleuve, on en parlait un instant. Thomas Ripsan, là j'étais hyper content puisque Thomas Ripsan, c'est le nouveau CEO de Martin, voilà, il est ici. Et voilà, donc le premier jour j'ai fait l'interview de Thomas Ripsan, et le deuxième deuxième jour, ou le troisième jour, le vendredi, pardon, oui, qui était le deuxième jour d'ailleurs, j'ai fait l'interview de Andy Powers, qui est le président de Andy Powers. Donc à eux deux, Thomas Ripsam et puis Andy Powers, ça doit représenter sans doute, et si j'ajoute Godin dans le teint, ça doit représenter 90% de la production de guitare acoustique en Amérique du Nord, tout du moins. Et la rencontre avec Thomas Ripsam était franchement très intéressante. Tiens, on va s'en écouter un petit bout pour la peine. Ah, bah pas de bol, j'ai un problème avec cette vidéo. Eh ben, c'est que j'ai dû mettre le mauvais lien. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller regarder sur un autre site web, non pas sur un autre site web, mais sur un autre browser. Voilà, excusez-moi de cette petite interruption. Voilà, je tape Thomas Ripsam, ça va me charger l'interview. L'article, et on va pouvoir regarder un petit bout de Thomas Ripsam. Voilà, qui est, il faut le savoir, c'est quand même pas banal, il est d'origine allemande, il est né en Allemagne, et il dirige une des plus grandes entreprises de guitare aux États-Unis, si ce n'est la plus grande, en tout cas si on parle d'acoustique, je pense qu'on peut s'entendre que c'est Martin. Allez, on écoute un peu de ça.
Welcome to the Guitar Channel. I'm super happy to welcome you a new interview. I am with Thomas Ripsam, CEO for Martin Guitars. Thomas, how are you doing? Are you surviving day one of the NAMM show?
Absolutely. It's been great so far, and I think we're off to a good start.
Tell me a bit about yourself before we talk about Martin Guitars. What was your very first instrument, Martin? I was about to call you Martin. Sorry, Thomas.
Yeah. Well, my first instrument was a...
C'est là où on voit que c'est le premier jour parce que je m'emmêle les pinceaux. Je l'appelle Martin alors qu'il s'appelle Thomas, mais c'est parce que je suis Martin. Enfin bon, vous avez compris le gag, quoi.
Suzuki acoustic guitar, believe it or not. It was kind of a mini guitar and I had it in my early teens, my first guitar. But for me, I actually...
Voilà, Thomas Ripsam, ça a vraiment été une des très très belles rencontres du NAMM. Et le jour suivant, donc j'ai rencontré Andy Powers, que je connais bien, puisque ça doit faire la septième ou huitième fois que je le fais en interview. Donc le président et master builder de Taylor Guitars. Donc ça, c'était le premier jour. Le premier jour, il est ici. Il y a eu notamment le premier jour une interview d'une star des années 90, voilà, Adrian Vandenberg, qui a été le guitariste-compositeur de Whitesnake pendant quelques années. Donc ça, c'était une des chouettes rencontres du NAMM. Et tiens, on s'en met un petit bout, là, allez.
Welcome to the Guitar Channel, I'm super happy to welcome you.
When you fly in. Yeah.
I arrived yesterday from Paris, so same okay. For you.
Paris.
Okay.
Woohoo. Yeah, great. Paris, you lucky guy.
Yeah, the best city in the world, of course.
It is, yes. Best croissants, best food, best baguettes, everything.
Exactly. Before we talk about your guitar, you have to tell me, what was your very first guitar, Adrien?
Et oui, forcément la question traditionnelle, mais vous n'aurez pas la réponse, il faudra regarder l'interview. Donc je reprends le fil, donc ça c'était le premier jour, donc très très intense, beaucoup de monde de rencontrer, Adriano Sergio de Ergon Guitar, James Trussard, Dylan Adams qui est mon chouchou actuel puisque c'est lui qui m'a donné envie de retravailler la guitare slide, Anthony de Kernon, Donald Dern, guitariste canadien, et Antoine Dufour, guitariste québécois. Donc voilà, ça c'était une journée qui a démarré vraiment en trombe et voilà, il n'y a rien de mieux pour se remettre un peu du décalage horaire. Je jette un petit coup d'œil dans le chatroom pour vérifier si j'ai pas oublié des choses importantes. Non, tout a l'air de bien aller. Alors non, je n'ai pas eu de rendez-vous avec Vanessa Paradis, tout va bien, voilà, ok, parfait, tout est sous contrôle dans la chatroom, c'est très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y reviendrai de toute façon. Le deuxième jour, ça, oui, c'est ça, vous voyez Carl Verrien que j'ai rencontré la semaine d'après chez lui, donc ça, c'était une longue interview guitare la main que vous aurez très bientôt. Et là encore, ça a été une très belle... moisson d'interviews. Donc Andy Power, je vous en parlais à l'instant. Fred Schneider, qui est un des musiciens français qui était présent là-bas, qui est un bassiste qui est endorsé par Phoebe Nare. Chris, qui est un backstager. Salut Chris, ravi de t'avoir rencontré en vrai, qui donne un coup de main à Paul Lera, des basses Lera, donc le bassiste, le luthier français dont je vous parlais. Et Pierre Camilleri, qui est suisse, qui fabrique des guitares avec Paul Lera, justement sous la marque Cortex. Il y a eu Tomo Fujita, voilà, Tomo Fujita, magnifique rencontre à nouveau, on a parlé de John Mayer, etc., c'était vraiment bien. Et après, il y a eu trois rencontres avec trois personnes très importantes dans le monde de la pédale, puisqu'il y a eu avec Christos, qui est le président fondateur de Crazy Tube Circuits, donc c'est une marque grecque de pédale qui fait des choses super intéressantes, donc j'étais ravi de le rencontrer. Et après, dans la foulée, j'ai fait Felipe Pampuri, qui est un Brésilien, qui est le fondateur de Bitronics, cette marque de pédales brésiliennes un peu barrées, qui fabrique à Los Angeles. Voilà, donc les deux rencontres étaient très très bien. Et ensuite, j'ai fait une petite interview avec Colt Westbrook, parce que ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Facebook d'ailleurs, ont peut-être vu passer ce t-shirt, voilà. Un beau jour de... C'était juste avant le NAMM ou pendant le NAMM, je sais plus. Je crois que c'était un peu avant le NAMM. Il y a Colt Westbrook, donc celui qu'on voit ici, là, le président fondateur de Wallace Audio, qui poste une photo de ce t-shirt que je déploie tout au complet, voilà, comme ça, et avec la tronche à Bibi dessus, voilà, vous me reconnaissez, hein. Et autant vous dire que j'étais pas au courant, hein. Je savais pas qu'il m'avait pas demandé la permission, etc., donc je lui envoie un petit mot un peu goguenard, je dis « Ah bah écoute, il est cool le t-shirt, ça aurait été sympa de me poser la question, etc. » Et donc du coup, de bonne guerre, il m'en a filé quelques-uns des t-shirts. D'ailleurs, les prochains backstagers qui passeront au showroom, je leur offre un t-shirt, et j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3 ou 4 je crois, donc je vais peut-être m'en garder un. Et voilà, et donc on a fait, je me suis retrouvé donc star bien malgré moi, et bien voilà, sur un t-shirt. Et le gars, c'était donc marqué Winter NAMM Tour, et de l'autre côté... c'est de marquer toutes les dates où Walrus Audio était présent en homme, et évidemment il n'y a qu'un seul endroit, c'est Anaheim, voilà, c'est ça la joke. Donc voilà, c'était quand même assez cocasse de retrouver ma tronche comme ça sur un t-shirt. Et c'était aussi le assez rigolo de discuter avec Colt Westbrook par rapport à ça. Voilà. J'ai mis je suis en train de regarder la chatroom, il y a une typo, il semble que j'ai mis VP de Martin Taylor, de Martin Guitar au lieu de VP Taylor. Ah oui, d'accord, faudrait que je corrige ça effectivement si j'ai mélangé Martin et Taylor. Merci beaucoup Arnaud, j'irai corriger ça. Salut Michael, que j'avais pas vu, voilà, et les autres, je crois que je vous ai déjà vu. Excellent, donc ça c'était le deuxième jour. Le troisième jour... là aussi, journée très intense, avec notamment une démo de Dweezil Zappa sur le stand de Shabbat Guitar, que j'avais déjà eu, j'étais allé rencontrer d'ailleurs dans son atelier, ami Shabbat, et Dweezil, il est endorsé par Shabbat, donc du coup, il est venu faire une démo, c'était bien cool. Alors, j'avais contacté auparavant Dweezil Zappa pour faire une interview avec lui, c'était pas possible pendant le NAMM, mais je ferai une interview avec lui dans les prochaines semaine, il est d'accord sur le principe, mais il voulait pas faire d'interview pendant le NAMM. Donc là encore, troisième jour, donc ça on est le samedi, un monde de fou, et avec encore une belle avalanche de rencontres, et notamment ce qui a été pour moi la grande rencontre de ce NAMM, c'était Joel Andres. Alors on est toujours un peu dans le délire que je suis en ce moment là de la slide, qui est un musicien extraordinaire, qui chante très bien, qui compose bien, qui joue de la slide de manière divine, et je l'ai rencontré dans un salon privé, puisqu'il présentait un produit dont j'ai pas encore le droit de vous parler, donc je reste motus et bouche cousue. Je peux juste vous dire la marque, il s'agissait de DSM Unbolt, donc ceux qui ont fait le Simplifier, etc. Et il était là à 1m50 de moi, donc forcément j'ai pris une claque monumentale, et ensuite on a fait une petite interview, donc ça, Joel Andres, mec adorable, voilà, donc vraiment, si vous connaissez pas Joel Andres, allez découvrir ou redécouvrir ça, parce que c'est très très bien. Il y a eu Tom Quayle, il y a eu aussi Matteo Mancuso, voilà, que j'avais déjà fait en interview à Padoue en Italie, et là qui était un peu sa sortie au NAM en tant que star, en tout cas l'époque après l'interview chez Rick Beato qui a super cartonné, et là c'était difficile de faire un pas avec Matteo Mancuso dans le salon sans être arrêté parce que quelqu'un voulait le prendre en photo. Il a vraiment explosé en termes de popularité, et on a refait une petite interview. Il y a eu aussi Zach Broyles, donc le fondateur de Mythos Pedal. Donc je suis hyper fan de son matos, bien que je ne connais pas toutes les pédales, mais je l'ai découvert via le podcast qu'il fait avec Rachel et le podcast qu'il fait Pedal Crusher, qu'il fait pour Mythos. Donc voilà, très bien, très très cool. Et il y a eu le débrief avec Julien Bitoun, parce que Julien repartait le dimanche. Voilà, donc allez, on se met un petit bout du jour 3. Allez, c'est parti. Oh, avec un petit peu de musique. Là, je rentre dans le NAM. Vous voyez le grand hashtag.
Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour un nouveau reportage depuis le NAM, Anaheim, en Californie.
On va avancer un petit peu.
Je suis en mode petite chemise parce que le soleil...
Et oui, il faisait beau. Ok, super. Allez, on fait une petite visite. Tiens, paf. Voilà, donc là, c'est le ACC North sur la droite. Et là, je longe le Convention Center sur la droite. Le ACC North, il était sur la gauche, pardon. Et voilà, avec les interviews du jour dont je vous parlais à l'instant. Donc, Adam Miller, on a fait une chouette interview. On a fait aussi une petite session. Voilà, puis les autres, je vous en ai parlé. Donc, encore une fois, une magnifique journée très intense avec beaucoup de monde. Et enfin, voilà, plein d'opportunités de rencontrer plein de gens. Et le quatrième et dernier jour, c'était donc le dimanche. Un des chouettes moments, c'était de voir Matteo Mancuso avec son papa, donc qui s'appelle Vincenzo Mancuso, qui était la personne qui a donné ses premiers cours de guitare. Et là, il jammait sur du jazz, etc. Et ça envoyait le boulet. Voilà, donc ça, c'était un des chouettes moments. Et là, j'ai enregistré des débriefs, notamment avec Guillaume Gelin de Blue Cat, avec Glenn Herzel, avec Olivier Uldry de Lead Music, Christian Hadstadt de Magneto Guitar et Lee Anderton. Donc le premier jour, j'avais fait une interview avec Danny Spitt. Et le deuxième jour, j'ai fait Lee Anderton. Voilà, donc ça, c'était vraiment un chouette moment aussi. J'étais ravi de le rencontrer. Alors, ça n'a pas été très long parce qu'il fallait qu'il aille ailleurs par la suite, mais c'était bien, bien sympa. Et au moins, comme ça, le contact est établi. Donc, pour en savoir plus sur le NAM, vous avez bien sûr les débriefs, notamment le traditionnel débrief avec Julien Bitoun. Donc, on a enregistré le samedi où il partage ses coups de cœur, ses coups de gueule, les concerts qu'il est allé voir, qu'est-ce qu'il a vu comme matos. Il y a eu le débrief avec mon copain Guillaume de Blue Cat Audio qui nous donne plutôt le point de vue du côté pro audio. Glenn Herzel, il faisait son premier NAM, il était là dans l'équipe de Carnum. Il présentait à nouveau la Mo qui était, je pense, uniquement en tant que proto, il me semble, l'année dernière. Donc voilà, il était très content de son NAM. Il avait amené sa Cherry's guitare, sa belle Les Paul de Thierry Cereza, qui est un peu la sœur jumelle de celle qui est ici au showroom. Donc ben Glenn, il vous racontera en long, en large et en travers son premier NAM, et c'est toujours une expérience magnifique. Et Olivier Uldry, donc dont je vous parlais, qui est le propriétaire, aussi un excellent musicien, du magasin Lead Music à Genève, où j'avais déjà eu l'occasion d'aller aussi. Et alors lui, c'est son je sais plus combien tième NAM, enfin c'est, il est à deux chiffres dans le nombre de NAM, et c'est très intéressant évidemment d'avoir son point de vue puisque il partage son point de vue de détaillant en tant que revendeur de matos. Il vient évidemment entretenir ses liens avec ses fournisseurs, découvrir d'autres choses. Il a parlé notamment de Victory, parce que je crois qu'il est importateur de Victory en Suisse, etc. Et il a parlé aussi du salon vintage où il est allé, qui s'appelle Tres Amigos, je crois, qui est dans Orange County, donc à un quart d'heure de Anaheim. Voilà, moi je suis allé une fois, mais il y a très longtemps, c'était pas... Et faudra que j'y retourne. Voilà, je dis bonsoir à Louis qui est dans la chatroom. Voilà, j'ai aussi fait un truc que j'ai trouvé bien cool l'année dernière, que j'ai refait cette année, c'est que j'avais emmené du matériel pour faire de la prise de son correcte, notamment mon Zoom F6 qui est, alors là il est 6 pistes, donc j'avais pas besoin de 6 pistes parce que là j'avais un seul signal, mais qui a le bon goût d'être 32 bits float, ce qui permet d'avoir de la super qualité et puis sans se préoccuper de la saturation, parce que c'est impossible de saturer ces bébêtes là. Donc vous retrouvez des sessions, alors il y a moi qui joue, il y a aussi quelqu'un dont j'ai pas encore récupéré le nom qui teste une des guitares Tosh et Rainer Tosh lui-même, voilà. Donc et ça permet de découvrir quelques guitares. Je vais pas vous mettre du son, mais je vais vous faire défiler les guitares. Voilà, donc là c'est votre serviteur en train d'essayer une Tosh. Ensuite il y a eu ce musicien qui faisait du tapping, c'était très joli. On s'en met un petit bout quand même. Sur une 665 Tosh. Ensuite, il y a le Rainer Tosh lui-même. Ah bah là, c'est votre serviteur qui fait ses plans pédale style. Rainer Tosh. Rainer Tosh toujours sur une 650 cette fois. Là, c'est votre serviteur sur une guitare. Hop, je vous la remets ici, là. Sur une guitare qui est un peu mon coup de cœur, d'ailleurs, de ce NAM. Hein. C'est la Trailbreaker 3 de chez Upeg, un luthier que j'avais interviewé au Japon, Osaka, l'année dernière. Et une MS6, une Superstrat de chez Deleuve, avec du ZZ Top. Et pour terminer, une magnifique guitare archtop du luthier Adriano Sergio que j'ai refait aussi en interview. Donc, alors c'est juste quelques guitares, hein, vous avez vu, là j'en ai fait 6, voilà, c'était les guitares qui étaient pas très loin en plus, et ce qui permet de faire du son, c'est quelque chose que je vais refaire, je ferai un peu plus. Alors là c'est pas évident de le faire au NAM, puisque, alors je peux le faire dans la journée, parce que je mets un micro devant l'ampli, voilà, je fais une prise de son qui est correcte, donc on est relativement isolé du bruit, mais c'est pas évident, parce qu'il y a des gens qui défilent, etc. Donc du coup, celles-là, les sessions que vous avez entreaperçues là, je les ai faites, je crois, le dimanche matin à 8h30, enfin, avant l'ouverture au public. Et ce qui évidemment était très 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 cool. Et il y a Arnaud qui dit, les sessions guitare de luthier, c'est vraiment top. Et ben écoute, moi aussi, je trouve ça vraiment top. Alors c'est un petit peu intimidant à faire, parce que là, en l'occurrence, je crois que c'est la guitare de Adriano Sergio, là, de Ergon Guitar, qui t'avait bien plu, Arnaud. Alors Adriano, je le connais, en plus il a le bon goût d'être abonné à la chaîne guitare, mais il était devant moi pendant que j'étais en train de jouer sa guitare, ce qui est toujours un petit peu intimidant. Voilà, en plus j'avais Michael Spalt qui était là, Rainer Tosh, Egon, Adriano pardon, et j'avais aussi Eddie Wang, donc le fabricant américain des amplis sur lesquels je jouais, qui sont top moumoute. Mais je pense que ça vaut le coup de le faire, parce que ça permet de ramener du vrai son, parce qu'autant vous dire qu'avec la caméra c'est impossible d'avoir du son qui est correct, tellement le niveau de bruit est colossal, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu mon retour sur le NAM. Encore une fois, moi je me suis régalé, hein. Je vais consulter mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié de vous dire sur le NAM, mais c'était un véritable caviar pour moi. C'est évidemment, même si, encore une fois, moi j'ai vu l'évolution, là c'était mon 9e NAM, j'ai vu l'évolution entre le premier NAM que j'ai dû faire en 2015 et puis celui-là. Mais ça reste une concentration énorme de gens du métier, en l'occurrence du monde de la guitare, qui sont présents. Que ça soit les industriels petits ou grands, les fabricants petits ou grands, les musiciens méga connus comme les pas connus, et tous les gens qui grenouillent dans le domaine. Donc du coup, là, vous avez vu, vous voyez dans les reportages, évidemment, tout ce qui s'est passé devant la caméra, évidemment, c'est le principe du reportage, mais il y a eu aussi beaucoup d'échanges, de discussions avec des personnes off the record, qui sont aussi très intéressantes et qui sont presque aussi pertinentes, en tout cas qui font partie du retour sur investissement que moi je récupère en allant au NAM. puisque je rappelle que c'est quand même pour le 8-9 jours que je reste sur place, pas loin de 3000 euros que, voilà, qu'il faut compter en mettant bout à bout ben, le vol, les premières nuits à Naïm qui coûtent un bras parce que c'est une âme chaud, location de voiture par la suite, les repas, etc. et diverses bricoles. Mais néanmoins, voilà, je ramène 35 interviews, comme je vous disais tout à l'heure, 5 reportages, pas loin de un peu plus de 5 heures de vidéos. Donc honnêtement, le Naïm, si vous regardez toutes les vidéos, vous avez une bonne idée de ce qui s'est passé, en tout cas pour la partie guitare, évidemment. Des centaines de photos que vous retrouvez aussi dans les articles. Voilà. Et par la suite, donc, ça, le Naïm s'est terminé le dimanche. J'avais prévu de rester 4 jours. Et parce qu'on est revenu jeudi, je dis on parce que on a fait ce petit guitar trip après avec mon complice Guillaume de Blue Cat. Et donc là, je l'ai emmené. On a fait un gros programme puisque le lundi matin, on était au Musician Institute pour rencontrer Scott Anderson. Donc ça, cette première interview. L'après-midi, on était chez Allen Hines. Donc là encore, une belle interview guitare à la main. Le mardi matin, on était, je consulte mes notes, chez Carl Verheyen, voilà, qui a une méga baraque dans Los Angeles. L'après-midi, on était encore c'était dans une salle de concert, c'était Greg Koch qui jouait à Venice West. Donc là, j'ai fait une interview de Greg juste avant le concert et après on est resté pour le concert. On s'est régalé, c'était top mammouth, j'allais dire. C'est ça, top mammouth. Et le mercredi matin, c'était avec Tom Strally. Tom Strally, c'est un musicien que vous connaissez sans doute pas. Enfin, peut-être si je vous en ai rabattu les oreilles, mais que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps via une vidéo de Paul Davids, voilà, où il parle de une guitare à 99 dollars que Tom Strally, donc ce musicien, voilà, qu'on aperçoit ici, a utilisé sur une chanson de Justin Bieber, la chanson qui s'appelle ETA sur l'album Changes. Et donc là, ça a été sorti il y a 6 mois, j'avais trouvé l'histoire super intéressante et le musicien vachement intéressant aussi. Donc du coup, je l'avais contacté sur Twitter, il m'avait promptement répondu qu'il était ok pour faire une interview lors du Naïm, et donc on est allé chez lui. Guillaume, c'était mon assistant caméraman, et on a fait une chouette interview. On avait fait deux interviews, une interview où je le fais parler un peu de sa vie, son œuvre, et après une autre interview qui était hyper intéressante où il parlait des différents instruments qu'il utilisait. Alors bien sûr, il utilise des guitares normales et pas que des Squier à 99 dollars, mais aussi des instruments plus ethniques. Il avait notamment un 12 cordes, un instrument à mi-chemin entre la 12 cordes, le banjo et la fretless, voilà, un instrument turc, voilà, dont il jouait très très bien. Il a joué d'un ukulélé tahitien, donc ça c'est un deuxième. Après, il nous a montré un banjo irlandais, puis encore un quatrième instrument. Enfin bref, c'était très très intéressant. Et le mercredi après-midi, on a terminé ce beau post-Naïm trip par la visite du custom shop de chez Schecter qui est à Sun Valley. Voilà, donc, et c'est toujours ce que j'essaye de faire, hein, de cumuler le temps que je peux être au Naïm pour le Naïm lui-même, et puis de profiter d'être sur place, puisqu'il y a évidemment une densité colossale au kilomètre carré, je devrais dire, de business, que ce soit des luthiers, des usines. J'avais eu l'occasion de faire la visite d'usine chez Corona de Fender. J'avais visité l'usine un peu au sud de San Diego de Taylor, etc. Il y a aussi les luthiers, et puis là c'était le custom shop de Schecter. Donc ça, c'était franchement un chouette moment. Donc ça, il y a encore du contenu qui est à venir sur la chaîne guitare pour ce qui est des interviews que j'ai fait pendant le Naïm, et celles que j'ai faites après, elles vont aussi arriver par la suite, notamment celle de Scott Anderson. Je le sais puisque j'ai édité l'article tout à l'heure, je la sors demain matin. Voilà, donc encore une fois, je radote, mais ça a été un Naïm magnifique, plein de choses intéressantes. Et j'ai oublié de vous mentionner quelque chose dans le trip post-Naïm, c'est que on est allé se faire plaisir et on a fait une petite visite chez Norman's Rare Guitar, hein. Donc Norman's Rare Guitar, vous le connaissez, hein, Norman's Rare Guitar, je vais pas vous insulter. J'ai déjà eu le plaisir de l'interviewer deux fois. Comme on n'était pas très loin, bah, évidemment, on est allé le voir. C'est toujours un plaisir, évidemment, de voir ce magasin. Donc, la première fois que je l'avais fait en interview, c'est ça. C'était en 2018. C'était avant qu'il ait son cancer. L'année dernière, en avril 2023, on était retourné le voir et on avait refait une interview et aussi avec Michael Lemo. Voilà, donc Norman's Rare Guitar, hein, le site web, peut-être ça fait partie de vos bookmarks, voilà, il y a toujours plein de belles choses, et on s'est régalé les yeux. J'ai à peine pris en main une petite Martin 018 de 56 à 5 000 $, qui était très bien, mais que j'ai vite reposé. Par contre, j'ai sauté sur ce livre, parce que comme je dis tout le temps, on adore acheter les guitares, mais le truc juste derrière qu'on aime beaucoup, enfin en tout cas moi, c'est acheter des livres qui parlent de guitare, et ça c'est un des livres que j'avais vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait la visite du studio de Julien Bitoun. Ça fait partie de ses ouvrages de référence et qui sont hyper intéressants. Alors il y a des textes, mais il y a aussi beaucoup de photos de guitare. Et donc, comme me disait Julien, si on ne trouve pas un modèle de guitare dans cet ouvrage, c'est probablement qu'il n'a pas existé. Voilà. Enfin, c'est pas complètement exhaustif, parce qu'il n'y a pas toutes les marques, etc. C'est les grosses marques, hein. Fender, Gibson, Gretsch, etc. Mais regardez comme c'est beau, cette palette de couleurs de jazz bass, voilà, qui sont ici. Il y a un petit peu de texte aussi, mais pas énorme. Voilà, où ça vous raconte bah, les histoires, et notamment, regardez comme c'est beau ça, une Strat avec un manche rosewood qui a l'air quasiment massif, là on voit ici, là. C'est quand même incroyable ça. Et bah voilà, donc j'ai versé mes 40 $ pour avoir le bouquin de Norman's Rare Guitar, et je sais pas si vous allez le voir, mais avec la dédicace de Norman Harris lui-même et de Michael Lemo, à moins que ce soit le contraire. Je crois que c'est Norman Harris et là c'est Michael Lemo, voilà, qui met Great to see you. Voilà, always great to see you, puisque il se rappelait que j'étais allé le voir et que je l'avais fait en interview l'an dernier. Mais j'étais hyper sage puisque j'ai rien amené et j'ai rien racheté à part un livre. C'est quand même pas mal, hein. C'est cool. Voilà, et puis comme il n'y a pas que le NAMM dans la vie et qu'il faut penser aux prochains événements, le prochain événement, ça sera le Paris Guitar Festival. Donc il y aura lieu le 1er, 2 et 3 mars 2024, donc dans un petit peu moins d'un mois. Et j'ai fait la traditionnelle interview avec Jean-Michel Proust, qui est le directeur du festival. Donc ça, c'est une interview qui est en accès libre, complet, qui est aussi disponible dans le podcast en audio et qui vous permettra de savoir tout ce qui va se passer au Paris Guitar Festival. Donc évidemment, la chaîne guitare y aura un stand, comme depuis toujours. C'est pas tout à fait depuis toujours, enfin comme depuis que c'est possible, ça fait presque une dizaine d'années maintenant. Et il y a un très beau panel de concerts, un très beau panel d'exposants. Voilà, beaucoup de luthiers, une centaine, essentiellement franco-français, mais il y a un petit peu d'étrangers aussi, et en tout cas plein de belles choses. À noter notamment, grosse nouveauté cette année, la présence, le premier salon de mon copain Tom Marceau, qui fait, je pense, pour la première fois ever un salon à Paris. Donc bien sûr, je vous y donne rendez-vous, moi j'y aurai un stand, voilà, donc vous êtes obligés de venir le 29 février. Donc ça, c'est le salon, il ouvre le vendredi, samedi et dimanche. Et par contre, le concert de Maxime Le Forestier, puisque c'est une des têtes d'affiche du salon, ça commence le jeudi, voilà, le jeudi 28, hein. Donc ne vous faites pas avoir. Et enfin, dans les dernières publications, très content d'avoir publié aujourd'hui la première partie de l'interview de Christine, qui joue de la basse et qui est venue ici au showroom et qui a tellement parlé qu'on a fait une interview en deux parties. Et donc, on va s'en écouter un petit bout pour la peine. Allez-y. Thank you. doigt sur la console pour vérifier, pour surveiller quand elle va arrêter de jouer en fait. C'est ça, que je vous explique tout. Et voyant qu'elle continue de jouer, bah je laisse jouer, quoi, hein, bien sûr. Petite intro, puis elle m'a fait une minute. Voilà.
Chaîne guitare pour une nouvelle interview, basse à la main. Hyper
Christine,
content,
voilà,
non seulement
super
musicienne,
un musicien de la très agréable. Comme je dis toujours, moi je suis très content de faire parler des représentantes de la gente féminine qui ont une contribution évidemment hyper importante et qui sont sous-représentées sur la chaîne guitare. C'est proprement scandaleux et j'ai pas du tout à me forcer puisque c'est une super musicienne. Et donc vous aurez la deuxième partie, je crois que c'est la semaine prochaine que je sors cet article là. Voilà. Salut mon petit Tanguy, ah oui, qui me dit qu'il sera présent tous les jours. Eh ben c'est top ça, voilà Tanguy qui fera son je sais pas combien, deuxième, troisième Montrouge, c'est excellent ça. Voilà, bah on arrive, je vérifie mes petites notes. Oui, on arrive presque à la foire aux questions. Ça fait quand même trois quarts d'heure que je vous cause dans le poste. Juste pour vous dire que cette semaine, donc j'ai fait donc Jean-Michel Proust en interview, ça je vous l'ai déjà publié. J'ai fait avant-hier une chronique dont je suis hyper content. Voilà, j'ai pas peur de le dire, avec le très talentueux Théo Cormier, qui est un peu notre Derek Trucks français, et en fait avec qui je lui ai proposé de faire une chronique la guitare slide pour les nuls, donc pour moi, voilà, où il montre un peu quelques trucs, comment s'y mettre, etc. Et on a fait une chronique qui est tellement longue que je vais la découper en deux morceaux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai enregistré cette semaine, qui est à venir dans les semaines à venir. Et enfin, tout à l'heure dans l'après-midi, là j'avais Romain Labaye, donc qui est le bassiste de Scott Anderson, que j'ai eu le plaisir de recevoir justement pour compléter l'interview que j'avais faite avec Scott Anderson à Hollywood, dans le Musician Institute. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, j'enchaîne sur les questions. Et si vous avez des questions, je remonte un peu dans le chatroom pour voir s'il y a des questions que j'ai ratées. Il y a Olivier qui me demande, est-ce qu'il sonne bien ce bottleneck, pas de bouteille, et il me semble bien gros, non. Alors, effectivement, il est un petit peu gros. Je vais le montrer ici. Alors, j'ai pas de bottleneck de taille normale. Alors, il fait un peu gros, il fait un peu épais, c'est vrai. Il y a Chris Colomès qui m'avait filé celui-là en marbre, qui est évidemment bien plus lourd, qui est un tout petit peu plus long. Et celui-là, je l'avais acheté à Los Angeles lors d'un concert des Dirty Knobs, qui est le groupe de Mike Campbell, là, de guitariste de feu Tom Petty. Et j'en avais acheté deux, des bottlenecks comme ça. J'en avais acheté, voilà, qui est en terre cuite. Et j'en avais offert un à Julien Bitoun, parce que c'était grâce à lui que je m'étais fait inviter à ce concert. Et donc, est-ce qu'il n'est pas un peu gros? C'est ça ta question? Alors oui, il est peut-être un peu gros. Alors évidemment, maintenant, depuis que je me suis mis la guitare slide, j'ai envie d'acheter tous les slides de la Terre. Comme j'ai reçu Théo Cormier il y a deux jours, il m'a dit « Ah mais attends, bouge pas, moi j'en ai dont je me sers pas, donc il va m'envoyer, enfin en fait il va repasser ici et il va me filer ceux dont il se sert pas. » Voilà. Donc après, l'avantage du bois, c'est que alors c'est du buis, hein, donc c'est très très dur, ça sonne très bien et que c'est très léger. Et du coup, c'est plus facile quand on débute qu'un slide qui a peut-être un sustain plus important avec soit du métal, là en l'occurrence c'est du marbre, qui est une matière qui n'est pas usuelle pour le slide, mais c'est aussi plus difficile à contrôler parce qu'on a quand même plus de masse comme ça au bout du doigt. Alors je vérifie si j'ai oublié des choses. Il y a Arnaud qui me demande, est-ce que j'ai suivi les conseils de Julien pour la gestion du décalage horaire du retour? Ah oui, parce que Julien, lui, s'est mis à la mélatonine dans un sens et dans l'autre. Écoute, non, je carbure au naturel, moi, donc je fais le recalage bio. En fait, moi, ma théorie par rapport au recalage, c'est que il n'y a pas pour moi de sens où c'est plus facile dans un sens et dans l'autre. Pour moi, le sens qui est plus facile, c'est le sens où tu vas vers l'événement que tu vas couvrir. Voilà.
quand tu arrives au NAM, tu es complètement décalqué. J'ai mis un chronomètre, j'ai mis 20 heures de la porte de chez moi à la porte de l'hôtel. Voilà, donc ça fait très très long comme voyage. Donc on est complètement décalqué, mais comme le salon commence le lendemain, ben, on est le couteau entre les dents, on carbure à l'adrénaline et aux pancakes, et puis ben, on se recale, et puis le soir on tombe de fatigue, on tombe comme une daube, etc. Alors quand on revient, ben, tu reviens chez toi, t'as pas la même excitation, la même, enfin t'es content de revenir chez toi, mais c'est quand même pas le même kick que de découvrir un salon. Et donc du coup là c'est un peu plus dur de rester ou les yeux ouverts avec les allumettes, etc. quoi. Donc voilà, donc non, je n'ai pas essayé de la chimie pour me recaler, mais peut-être je devrais en fait, hein. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Non, pas d'autres questions. Donc j'avais eu comme question Vincent qui m'avait demandé quelle était ma guitare préférée du NAM et pourquoi. Alors, je vais essayer de te trouver une photo, je sais plus où je l'ai mise. Mais c'est dans un des articles que j'ai publié, on la voit en gros, la guitare que j'ai trouvée la plus belle. Et où est-ce qu'elle est? Bah non, zut, c'est où? Ah, c'est peut-être sur The Guitar Channel. Bougez pas, je l'ai pas préloadé. Voilà, hop, je vais fermer cette page, tac. C'est une guitare d'un luthier japonais et qui a fait une... Alors je l'avais rencontré, bah c'est la guitare blanche que j'ai montré tout à l'heure dans les guitares de luthier que j'ai testé. Voilà, elle est ici, je vous la montre sur l'article de The Guitar Channel, parce que c'est là où je l'ai utilisée en illustration. Voilà, c'est celle-là, donc c'est la Trailbreaker 3, et le luthier c'est UPEG, donc si vous tapez UPEGG, voilà, .com, vous tombez sur le site. Alors il est non sécurisé, mais c'est pas bien grave, on va rentrer en anglais. Et notamment, on doit voir les photos, là, voilà. Donc, c'est une forme un peu offset, très sympa. Et là, il avait fait un modèle spécial pour le NAM, une sorte de finition un peu TV White, là, qui était sublime, moi, qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et pas très cher, enfin, toute proportion gardée, puisqu'elle était à seulement 3500 dollars. Voilà. Donc, ça, c'était ma guitare favorite du NAM, pardon. Ensuite, tu me posais d'autres questions qui n'avaient pas à voir avec le NAM, mais je vais y répondre pareil. Tu m'as demandé est-ce que j'ai déjà essayé une Music Man et laquelle, et qu'est-ce que je pense de Music Man. Alors, oui, j'ai déjà essayé une Music Man. J'en ai une, c'est la Van Halen, que je montre des fois de temps en temps. Il suffit de taper Van Halen, je pense, sur le site web et on va la voir. Et je trouve que c'est une excellente marque dont la qualité ne s'est jamais... démenti en fait, hein, qui a toujours été très stable. Alors ils ont leur sous-marque qui est Sterling, mais la marque à elle, les Ernie Ball Music Man, c'est franchement excellent. Donc voilà, je vous l'avais montré, alors ça remonte un petit peu, faudrait que je la ressorte un petit peu, mais honnêtement faudrait que je la fasse régler parce que ça fait un moment que je l'ai, et puis il y a un petit problème de frise etc. dessus, mais elle est sublime et j'aime beaucoup. Et encore une fois, je pense que la qualité des guitare Music Man n'a fait qu'augmenter en fait, hein, et celle-là que j'avais achetée pour la naissance de notre premier fils, donc c'était en 97, je l'ai toujours, et c'est clairement une de mes meilleures guitares, qui est très rock, hein, c'est vraiment pas une guitare pour faire du jazz ou du blues, mais qui a un son vraiment magnifique. Et tu me posais l'autre question que tu me posais, Vincent, c'est qu'est-ce que je pense des guitares signature en général. Et bah écoute, moi j'en pense que si les guitares nous plaisent et qu'on kiffe l'artiste, eh bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. Donc, ça a été le cas. Moi, je suis hyper fan de Van Halen. Donc, forcément, cette Van Halen, qui était la première guitare vraiment signature de Van Halen. Avant, il avait été endorsé par Kramer. Mais c'était pas des guitares qui étaient fabriquées pour lui. Il se fabriquait ses guitares avec des pièces à gauche, à droite, quoi. Alors que là, c'est la première guitare qu'il a dessinée. Puis après, il y a eu la Wolfgang, etc. Donc, moi, cette guitare, quand elle est sortie, elle m'a fait fantasmer. Et j'ai fini par en trouver une d'occasion magnifique. Et, j'ai aussi dans mon arsenal une Eric Clapton, une Strat Clapton que j'avais acheté en 88 à New York, que j'ai toujours, voilà, que je vous montre aussi de temps en temps. Il suffit de taper Clapton, je pense, sur le site web et elle va apparaître. C'est ma Strat verte, je l'ai montré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur une FAQ. Voilà. Elle est ici, ma fameuse strat verte en, je crois que c'est 7 up green, un nom comme ça. Alors, électronique active avec le booster de médium, tout team, une excellente guitare. Donc, personnellement, moi, je suis plutôt fan des guitares signature. Voilà. Alors, il faut toujours un peu se méfier. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais il y a une époque, il y avait les guitares signature qui étaient commercialisées. Et curieusement ou pas, le musicien, on le voyait jamais jouer avec. En tout cas, c'était une version qui avait toujours l'air un peu améliorée, qui était genre fabriquée par le custom shop. Mais celle qui était commercialisée, c'était pas le cas. Honnêtement, je pense que c'est moins le cas maintenant. Non, parce que les informations circulent tellement vite que ça se sait assez bien. Voilà. Donc voilà ce que je pense des guitares signatures. Hein. Je pense qu'il faut jamais oublier que les guitares, ce sont des instruments de désir, de fantasme, quoi. Hein. C'est, on les achète parce qu'on trouve que c'est des beaux objets. Et puis on achète la part du rêve. Pourquoi on achète Van Halen? Parce qu'on se dit, honnêtement, bah voilà, si j'ai la guitare de Van Halen, forcément je vais jouer un petit peu mieux, ou en tout cas un petit peu plus dans son style, je me rapproche un petit peu du patron. Pareil pour Clapton, et après on peut multiplier comme ça les. À l'envie. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a une guitare signature que j'aime pas du tout ou que je trouve ratée, etc. Ce que je trouve intéressant, en tout cas dans les guitares signature, c'est quand elles ont, soit c'est un modèle complètement original, c'était le cas de la modèle Van Halen chez Ernie Ball Music Man, qui était une forme originale, soit une spécificité, donc c'était le cas par exemple de la Clapton, où il y avait une électronique active, ce booster de médium qui était que disponible sur cette guitare à l'époque, et ainsi de suite. Après, si c'est juste une strat, je sais qu'il y a eu des strats John Mayer, moi je suis ultra fan de John Mayer, bon, ben j'ai l'impression que c'est une strat, voilà, bon, il y a sans doute un set de micro un peu custom, et voilà, mais sinon, à part ça, à 10 mètres, c'est impossible de dire que c'est une strat John Mayer. Donc, je trouve ça intéressant quand il y a une vraie spécificité, quelque chose de particulier. Sinon, si c'est juste une couleur qui change, ou etc., bon, c'est un peu moins... Mais après, encore une fois, hein, c'est la part du rêve. Si ça vous fait kiffer, il n'y a aucun mal par rapport à ça. La dernière guitare signature, moi, qui m'a bien fait kiffer, que j'ai failli acheter, mais que j'aurai en test bientôt, c'est la PRS DGT SE. Donc, c'est de David Grissom, que j'ai fait en interview il y a quelques temps en Zoom. Et c'est le modèle SE, donc Studio Note Edition, sachant que la core, elle est à la core modèle de chez PRS, elle doit être à 4 ou 4500 dollars, quelque chose comme ça. Et celle-là, la PRS DGT SE, elle est à un peu moins de 1000, ou elle est dans les 1000 euros, je crois. Bon, elle est juste en dessous. Voilà, je viens de faire un petit coup de Google, et notamment en gold top. J'en ai pris une en main au NAMM parce que c'est une guitare qu'on voit souvent sur les stands, et j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, et il y a beaucoup de vidéos où il la teste. Alors, bien sûr, il y a des vidéos sponso, faut faire attention, c'est un peu l'école des fans, tout ça. Mais il y a eu aussi des youtubeurs qui ont fait des vidéos qui n'étaient pas sponso et qui la trouvent très bien. En tout cas, d'un excellent rapport qualité-prix. Et il y a même des gens qui sont très fans de PRS qui ont fait cet avis-là. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça fait déjà 57 minutes que je vous cause dans le poste. Est-ce que vous avez encore des questions, ou est-ce qu'on lève la session? Donc je vous rappelle, hein, le prochain événement, le Paris Guitar Festival, donc le 29 février, 1er, 2 et 3 mars. 1, 2, 3, 29, 1er, 2... Pourquoi j'ai dit 3 ? 1 et 2 en fait, pas 3. Enfin bref, le vendredi, samedi, dimanche, avec le concert de Maxime Le Forestier le jeudi soir, le jeudi 28. Donc bah, j'espère d'en voir un maximum. J'aurai évidemment l'occasion de vous en rabâcher les oreilles, puisqu'il y a encore quelques week-ends avant ça. Voilà, bah écoutez, sauf s'il y a une dernière question, je vais regarder dans la chatroom si j'ai oublié des choses. Il y avait Arnaud qui m'a demandé ce que j'ai emmené la Giro au NAMM dans son pays. Tu n'as pas emmené la Giro au NAMM dans son pays? Je suis pas sûr de la formulation, mais non, je n'ai pas emmené de guitare. C'est quand même un peu compliqué de voyager avec une guitare. Enfin, c'est faisable. C'est surtout, la vérité, c'est que j'ai zéro temps de jouer de la guitare, quoi. Entre les journées qui commencent très tôt, parce que, because décalage horaire, évidemment, on est levé super tôt. Et puis c'est des journées aussi très intenses où il y a plein de choses à faire. Et le soir même, je publie la vidéo, etc., le reportage. Ce qui était très bien cette année, c'est que on était au King's Inn de Anaheim et il y avait une bande passante de fou. Donc du coup, je pouvais uploader les reportages quasiment dans la nuit pour que vous puissiez les avoir promptement. Voilà, bah écoutez, je crois que ça va faire la blague pour cette FAQ. J'espère que tout va bien de votre côté. Merci beaucoup de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles si vous m'écoutez via le podcast. Merci à tous ceux qui étaient là dans la chatroom. Merci aussi à vous si vous regardez en replay. Comme toujours, vous mettez le pouce, vous cliquez la cloche, vous vous abonnez, enfin la totale, et postez des commentaires, questions, suggestions. Ça peut être une question pour la prochaine FAQ de la semaine prochaine et ainsi de suite. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.